Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode avant la pause de fin d'année. Aujourd'hui, je vous présente Alison. Alison est créatrice de Jolis Jours. Rien que le titre, je pense que ça fait rêver. Très loin des films et séries américaines où les wedding planners sont des personnages parfois imbuvables, Alison nous fait découvrir combien ce métier nécessite de la générosité, de l'organisation, mais aussi beaucoup, beaucoup de plaisir dans cette activité qui permet à tout le monde de passer de belles journées. Je vous propose sans plus attendre de découvrir cette entrepreneur qui est généreuse, qui est pétillante, qui a 1 million d'idées à la seconde. L'épisode est dense. Je pense que vous allez découvrir des choses que vous ne soupçonniez pas sur les coulisses de l'organisation d'événements et des mariages. Moi, j'ai appris beaucoup, je me suis amusée. Alors, bon amusement à vous aussi dans l'espace de récréation. Dis, pour commencer, je me demandais en t'attendant, c'est quoi l'intitulé? C'est comment t'appelles ton métier? Comment tu te présentes?
Créatrice de jolis jours.
Créatrice de jolis jours.
Ouais. Ok. J'en ai parlé ce week-end avec les prestataires quand on était à table. J'aime pas wedding planner.
D'accord.
Parce qu'en fait, wedding planner, c'est cette image de la personne qui va prendre ton truc, tout faire à ta place.
D'accord.
Je vais pas dire sans consulter, mais c'est un peu quand même ce cliché. Et le cliché aussi de ça coûte horriblement cher.
Ouais.
C'est un peu ça l'idée que les gens ont du métier de wedding planner.
D'accord.
C'est la personne qui prend le truc des gens et croule sous l'argent parce que ça coûte horriblement cher. Et moi, c'est pas du tout ça que je fais.
Ouais.
Donc, moi, je suis créatrice de Jolis Jours parce que c'est vraiment le côté faire pour les gens, faire avec les gens, l'accompagnement. Je vais pas dire la co-création, mais il y a quand même ce côté d'échange qui ressort très très fort.
Ouais.
Et alors, ça ne se limite pas du tout à l'organisation.
Oui.
Parce que j'ai la partie déco, j'ai la partie cérémonie, j'ai la partie animation, j'ai la partie location, création. Enfin, c'est vraiment un pôle tellement grand que quand on m'appelle wedding planner, je suis un peu là genre « Ah non, pas ça !» Je ne suis pas ce dragon-là.
Mais c'est un terme que toi, tu as choisi il y a... Il n'y a que toi, aussi d'autres gens. Il n'y a pas d'autres gens qui utilisent ce terme-là pour la même chose.
Non, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a personne qui propose non plus les mêmes choses que moi.
Oui.
C'est tellement, tellement varié. Même dans celle avec qui je bosse, à qui on se renvoie les contrats, etc. Parce que bon, deux cérémonies le même jour, c'est compliqué.
Oui.
Parce que souvent, ça tombe à la même heure. Et souvent, quand j'ai cette demande-là, il y en a une qui est à Liège et l'autre qui est à Charleroi.
Oui.
Donc, voilà.
Ça fait un très grand écart.
Ça fait un très grand écart. Du coup, on se renvoie entre plusieurs les différents contrats. Et parmi toutes celles avec qui je bosse, il n'y en a aucune qui propose la même chose que moi.
D'accord.
Il y en a qui font que les cérémonies, il y en a qui font que organisation et jour J, il y en a qui font décoration, mais en louant la déco, en faisant des créations. D'autres qui font la scénographie, donc la déco, la coordination, mais pas les cérémonies. Enfin,
oui.
C'est vraiment, chacune a un peu ses spécificités et je suis la seule qui propose autant de services différents.
D'accord. Ok.
Et donc c'est vrai que si un jour quelqu'un se dit créatrice de jolis jours, je vais envie de taper dessus parce que c'est mon truc.
C'est toi, c'est toi. Moi. Et ça fait longtemps?
Ça fait 4 ans et demi.
D'accord, ok.
Le projet a commencé à se lancer vers mai-juin 2017.
Ouais.
Et je me suis lancée officiellement avec CréaJob en août.
D'accord.
Donc après la formation de préparation à la couveuse, donc c'est depuis août 2017. Je suis lancée. Et alors, en tant qu'indépendante à titre principal, ça va faire 3 ans. Ça a fait 3 ans, samedi.
Ok. Ouais.
C'est chouette. 4. Ouais.
Alors, je te propose de repartir un peu dans le temps pour un peu comprendre qui tu es et peut-être d'où viennent toutes ces idées de tout ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu as un souvenir de toi enfant et est-ce que enfant, quand les adultes, tu sais, te demandent qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande, est-ce que tu avais une réponse à cette question?
J'ai eu plein d'envies différentes
tout
au long de ma vie, ça a tout le temps changé. Et d'ailleurs, même depuis que je me suis lancée, il y a plein de choses qui se sont ajoutées, qui se sont retirées, enfin, plein de projets, je vais dire, annexes. Et en fait, j'ai fait des études d'art graphique en humanité.
Ouais.
Et un des projets qu'on a dû faire à un moment donné, je pense que c'était en 6e, humanité, c'était faire une carte de visite.
D'accord.
Et je ne savais pas du tout quoi mettre dessus, parce qu'évidemment, il fallait se mettre un titre.
Ouais.
Et en fait, en retrouvant ce truc-là, Alors, je ne sais plus ce que j'avais mis exactement. Ce n'était pas créatrice de jolis jours, mais c'était presque ça.
Ouais.
J'avais mis dans les trucs, j'avais mis photographe animalier, animatrice pour enfants. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais aussi mis graphiste. J'avais mis un style primaire. Et j'avais mis, pas wedding planner, mais genre créatrice de contes de fées ou un truc du genre.
D'accord, ok. Il y avait du potentiel.
Ouais, c'est ça. Il y avait ce truc-là qui était là. Et quand je suis retombée dessus, ça m'a fait rire. Je dois encore l'avoir quelque part parce que je sais que je l'ai gardé en disant ça, c'est, je dois garder, quoi.
Ouais.
J'ai ce truc de template de carte de visite où j'ai écrit ouais, quelque chose comme créatrice de contes de fées, quoi.
D'accord.
Donc en retombant là-dessus, j'étais waouh. Alors qu'à ce moment-là, jamais je m'imaginais faire ce métier-là. Quoi.
D'accord.
Parce qu'entre-temps, l'année d'après, je suis partie un an aux États-Unis.
Ouais.
Où là, j'ai eu aussi 15 000 possibilités de job. Je voulais faire des dessins animés 3D, production vidéo, donc de faire des films.
Ouais.
J'avais aussi toute une partie où je voulais être actrice. Enfin, voilà, il y avait vraiment plein de trucs que j'ai voulu faire. Et puis en rentrant en Belgique, retour sur Terre, j'étais à Rondelle, je vais faire un style primaire.
Et juste, attends, je t'interromps. Est-ce que c'est aux États-Unis que tu découvres l'activité de wedding planner? Ça, parce que ici, ça existe depuis longtemps. C'est pas...
Ça va faire une dizaine d'années.
Oui, c'est ça. Ouais, hein, c'est pas très ancien.
Non, c'est assez récent. Et oui, je pense que les premières en Belgique, il y en a deux auxquelles je pense. Ça va faire une dizaine d'années.
D'accord.
Qui sont spécialisées, je veux dire, mariage.
Mais là-bas, ouais. L'organisation d'événements est peut-être plus...
Là-bas, c'est d'office ou en wedding planner.
Oui, c'est ça.
C'est un peu, c'est un must, quoi.
Ouais.
C'est quoi, tu te maries, t'as pas de wedding planner, ouais. C'est un mariage cheap d'office.
Ouais.
D'office, ouais. Ouais.
Et je me demande si même justement pour des événements dans l'absolu, des événements privés,
ouais.
C'est pas plus courant de passer ouais. Par quelqu'un.
Parce qu'ils ont les trucs des grosses fêtes qu'ils font pour les 16 ans, etc.
Ouais, ouais.
Et donc effectivement, souvent, ils passent par des organisateurs parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont les moyens de le faire.
Ouais. Et que c'est dans la culture.
Voilà, c'est dans la culture, quoi. Et d'ailleurs, le gender reveal party,
oui.
C'est un truc qui arrive oui. Aussi maintenant. Et c'est clairement
via les baby shower aussi.
Ouais, c'est ça. C'est clairement via la culture, avec les films et
ouais.
Tout ce truc-là, quoi.
Ouais.
Et moi, c'est...
Même les enterrements de vie de jeune fille et de ouais. Vie de garçon, je pense que ça a existé, mais peut-être pas de la façon...
Ouais, c'est ça. La manière dont on les fait maintenant,
ouais.
C'est pas ce qu'il y a... Des EVG et des jeux VGF dans les films, quoi.
Ouais.
Le truc Hangover et compagnie.
C'est ça.
Enfin, voilà. Quand on voit ça, on se dit, ah, bah oui. On le faisait pas comme ça chez nous, mais on le fait de plus en plus comme ce qui se fait dans les films, quoi.
Ouais.
On s'éloigne du vendre des capotes dans la rue à plutôt faire des soirées, des week-ends où c'est des grosses sorties et faire des découvertes, des activités. Et, enfin, voilà, c'est un peu... Ça vient clairement des films, mais j'ai pas découvert le métier là-bas parce que j'avais 18 ans. Mais clairement, là-bas, c'est un must, quoi.
Ouais.
Si tu te maries en wedding planner, c'est que t'as vraiment pas de sous.
Ok.
C'est un peu là-bas, c'est très, très, très cliché à ce
ouais,
niveau-là.
Ouais, ouais.
Mais ils mettent 100 000 euros dans leur mariage.
Hein, ouais. Et donc, si on revient, toi, tu reviens des États-Unis et alors tu vas faire des études d'un site primaire.
Ouais.
Et comment ça devient la synthèse de dessins animés, vidéo?
Mais la vidéo 3D, c'est un truc que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et au final, aux États-Unis, j'ai un peu touché à tout. J'avais trois cours optionnels que je pouvais choisir. Et j'ai pris vidéoproduction, théâtre et design d'intérieur.
D'accord.
Donc c'est génial parce que j'avais le choix de pouvoir prendre des trucs hyper variés. Et aussi hyper épanouissant. Et au cours de vidéoproduction, j'avais vraiment bien aimé. J'avais pas fait ce que j'avais imaginé faire plus tard, c'est-à-dire vraiment conception 3D. Je me suis rendu compte que les écoles pour faire ça ici en Belgique, c'était pas génial, qu'il fallait potentiellement repartir à l'étranger, etc. Et voilà, j'étais pas sûre que c'est ça dont j'avais envie là maintenant. Et puis c'est vrai que je suis animatrice. Pour enfants depuis des années, parce que j'ai fait ma formation quand j'avais 16 ans, et j'ai toujours adoré le contact avec les enfants. C'est vrai que du coup, je m'étais dit, bon, ben voilà, 3 ans d'études, et puis un boulot, et puis après, on verra, quoi.
D'accord.
Et donc, c'était un peu la facilité, même si j'étais persuadée que j'allais adorer ça, et j'ai toujours eu ce côté enseigner, gérer un groupe, et ce que j'aimais bien, c'était, en tant que prof primaire, on devait apprendre plein de choses très différentes.
Oui.
Et donc, c'était toujours un métier en bouleversement, quoi, avec plein de choses à inventer à chaque fois. C'est l'idée que j'en avais, en tout cas. Et donc, je me suis dit que ça allait bien correspondre à mon côté très hyperactif et
gourmande.
De vouloir faire des choses différentes et surtout pas être dans une routine avec tout le temps la même chose. Sauf que, bon, voilà, après les études, j'ai bien aimé les études, j'étais motivée. Et puis, j'ai bossé un an et là, la réalité du métier n'est absolument pas celle que... Ni celle qu'on apprend,
d'accord,
ni celle qu'on s'imagine.
Ouais.
Et je revenais... Enfin, après, j'étais dans une école à Anderlecht, avec plein de primo-arrivants, avec plein de familles en difficulté, etc. Et moi, qui suis une éponge émotionnelle, c'était déjà pas évident à gérer. Alors, en plus de ça, j'étais au milieu de profs qui avaient leurs idées, leurs trucs arrêtés. Il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. Moi, qui suis hyper créative et qui voulais leur apprendre les maths en faisant des jeux, des machins. Non, non, tiens, une feuille de calcul et voilà. Et donc, j'ai eu ce retour à la réalité qui m'a un peu fait me dire, ok, en fait, c'est pas ça.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai eu Raphaël à ce moment-là.
Oui.
Donc, je suis tombée enceinte la première année où j'ai bossé. Et donc, en septembre, j'ai accouché en octobre, je me suis dit, ça sert à rien de me chercher un boulot. Et puis, en fait, quand j'ai râle, je me suis dit, en fait, je pourrais plus jamais retourner dans l'enseignement. C'est un truc, ça me convient pas, quoi.
Mm-hmm.
Parce que tous les soirs, je rentrais en étant en ébullition, de me dire j'ai plein d'idées, je ne saurais jamais les mettre en place. Et en plus, l'équipe enseignante, ça se passait super mal. Donc, dès que je rentrais, j'étais un peu complètement down, épuisée.
Et tu t'es pas dit que c'était lié à cette équipe et à cette école-là et qu'il y aurait d'autres écoles avec des pédagogies où toi, tu t'y retrouverais
oui,
plus.
Mais en fait, non, parce que l'enseignement en Belgique ne me convient pas, je pense.
Ouais.
La manière dont on envisage les choses et le fait aussi que, je veux dire, je ne suis pas spécialement faite pour travailler en équipe, je pense.
Mm-hmm.
C'est un truc, je suis très, très indépendante.
Ok.
Et donc, je pense que le fait de travailler en équipe est quelque chose qui ne me convient pas.
D'accord.
Sauf que dans l'enseignement, il n'y a pas le choix.
Ouais.
Parce que, à moins d'être dans une toute petite école de village où chacun a son année et quelque part ne doit gérer que les apprentissages de cette année-là, alors ça irait.
Ouais.
Faut-il encore tomber sur une école où ça fonctionne, etc. Et que oui, dans les grandes écoles où il y a plusieurs classes, plusieurs années, où il y a des concertations, où il faut mettre à corps, ça n'allait pas marcher, quoi.
Ok. Et ça, c'est un truc que tu as découvert de toi dans cette année-là, où ouais. Tu avais un peu...
Bah, je m'en suis rendu compte pendant cette année-là, et puis pendant tout l'été, où j'étais... Et donc, c'est là où je me suis dit... qu'est-ce que je vais faire ?
Qu'est-ce qu'on fait ?
Parce que voilà, mon mari, il est instit, lui.
Ouais.
On s'est rencontrés pendant les études, donc lui, il est toujours instit. Et lui, il était un peu là, bon ben, c'est bien, moi j'ai un salaire, total chômage pour l'instant, enfin, après le congé de maternité, c'est le chômage. Et à un moment donné, il faudra quand même
des sous.
Retourner au boulot, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on organisait notre mariage à ce moment-là.
Ok.
Et en fait, en organisant le mariage, autant la partie faire des recherches qu'imaginer la déco, etc., je me suis vraiment découverte complètement.
Ok.
Et c'est là que j'ai eu ce truc de « je ne veux plus jamais faire autre chose ». Je ne veux plus jamais faire autre chose que ça.
D'accord.
Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à prendre mes renseignements... Azimut, CreateJob, la Smart, enfin voilà, tous les organismes qui pouvaient m'aider à...
Les questions de statut.
À faire mon projet, quoi.
Ouais, ouais.
Par où démarrer, parce que grâce à mon bac, j'avais la gestion de base.
La gestion, ouais. En tout cas, l'accès.
Mais j'avais zéro notion, hein.
Oui.
Zéro notion de compta, zéro notion de lancement d'entreprise, enfin, j'étais nulle part.
Ouais.
Et donc, heureusement qu'il y a CreateJob qui m'a permis de lancer mon projet. Et voilà, je suis rentrée en couveuse en août. On s'est mariés en juillet et puis en août, j'étais lancée.
Ouais.
Et puis voilà, la grande aventure a démarré, quoi.
Et ton métier, par contre, tu t'es formée du coup par rapport à l'aspect entrepreneurial.
Ouais.
Est-ce que ça s'apprend d'être créatrice de jolis jours ?
Alors, oui et non.
Ouais.
Parce que j'ai suivi une formation en ligne de wedding planner.
D'accord.
Qui en soi, toutes les infos que j'ai eues dedans... C'était des infos qui, pour moi, coulaient de source.
D'accord.
Parce que je l'avais appris en organisant mon mariage et qu'il y a plein de trucs où j'étais à main. Oui, logique. C'est comme ça que je le ferais. Et donc,
ça
j'ai de la formation, mais ça m'a confortée dans le fait que c'était fait pour moi. Et puis j'ai fait une formation wedding designer.
C'est quoi ça?
C'est décoration de mariage.
Ok, déco. Ouais.
Qui était une toute petite formation en 4 jours, ce qui n'est absolument pas suffisant pour apprendre ça. Sauf que moi, vu que j'avais le bagage de décoration d'intérieur que j'avais fait aux États-Unis, où j'avais quand même un très bon bagage à ce niveau-là, mon bagage graphique des humanités. Et puis, j'ai toujours créé, fabriqué quand j'étais petite, etc. Et donc, cette formation, pareil, je me suis aussi dit à la fin, bon ben, voilà. J'ai un papier qui dit je l'ai fait.
Ouais.
Ça m'a donné un peu du crédit et ça m'a conforté dans le fait que ce côté de pouvoir se justifier, hein, de ce métier qui n'existe pas. Ouais, je fais ce métier qui n'existe pas vraiment. Donc ça m'a juste conforté là-dedans. Mais pareil, la formation.
T'as pas appris.
Non, j'ai pas appris des choses en particulier. Oui, j'ai eu des petits conseils pratiques où je suis contente de les avoir appris là au lieu de faire des erreurs et les apprendre par après. Genre ne jamais mettre de paillettes sur une table parce que ça se retrouve dans la nourriture. Donc voilà, c'est le genre de petites choses que oui, j'ai appris, mais sans me dire c'était ça dont j'avais besoin, quoi. Et puis c'est vrai que tout le reste, ben, l'animation des enfants, je l'ai via ma formation d'instit.
Oui.
La manière, pour les cérémonies, j'ai pas fait de formation.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas de formation qui existe. Oui, il y en a en France et autres, mais le truc, moi, c'est vrai qu'avec le petit, c'était pas possible de commencer à aller faire 2 semaines en France pour faire ça. Et donc, c'est beaucoup des recherches sur Internet.
Et ça, c'est par rapport au fait que tu...
Maries les gens.
Maries les gens, j'allais dire, je cherchais officiante.
Oui, c'est ça. Officiante de cérémonie, c'est ce que je fais le plus.
Est-ce que c'est lié au mouvement de la laïcité, etc.?
Non.
C'est en dehors de ça.
Dans le sens où il y a des mariages laïques organisés par la maison de la laïcité.
C'est ça.
Qui ne me correspondent pas. Pour avoir déjà vu des baptêmes laïcs et un mariage laïc, pour moi, c'est juste déplacer l'église hors de l'église en disant qu'il n'y a pas d'église.
Ouais.
Parce que ça inclut quand même les gens dans quelque chose. Ce que moi, je ne veux pas. C'est comme ça que je l'explique aussi à mes couples quand ils choisissent de faire une cérémonie d'engagement.
Ouais.
C'est que je prends leur couple tel qu'il est. Et je les engage l'un envers l'autre, tout à fait symboliquement.
Ouais.
Donc avec les symboles qu'ils ont envie d'avoir, donc j'utilise des rituels qui viennent d'autres cultures, d'autres traditions, etc. Dont des rituels qui sont souvent utilisés dans les cérémonies laïques, mais aussi des rituels d'un peu partout. Quoi. Ici, cette année, j'ai eu un mariage catholique et juif. Et on a fait ça sous une roupa, et ils ont cassé le verre, et donc voilà, on a inclus des rituels juifs pour quand même que ceux qui étaient de cette religion-là se retrouvent dans la cérémonie, malgré le fait que ça se passe pas avec un rabbin, etc.
Et justement, les gens réagissent bien au fait que tu sois pas rabbin, mais qu'il y ait quand même la roupa autour, ça passe.
C'était vraiment leur envie d'avoir des symboles d'un côté, des symboles de l'autre, et quelqu'un neutre au milieu qui faisait la liaison de tout quoi.
D'accord.
Et donc c'est comme ça que je l'explique aussi aux futurs mariés. Ici j'ai un couple, ils m'ont dit voilà, tu peux bloquer la date, mais on revalide prochainement parce que le papa de mon mari est de confession musulmane et dans ma famille ils sont très catholiques. Et nous on se retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Et donc c'est ce que je leur ai expliqué, j'ai dit voilà, moi je vous unis l'un envers l'autre sans... a priori quelconque, on peut avoir des rituels qui viennent d'autres cultures, d'autres religions pour venir apporter parfois ce petit côté qui va conforter les gens dans l'assemblée, mais sans que je sois dans un camp, quoi.
Oui.
C'est un peu ça le truc.
Ouais.
Et c'est vrai que ça, il n'y a pas vraiment de formation, en tout cas en Belgique, il n'y en a pas, mais avec quelques partenaires, on aimerait bien en lancer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent le faire et que nous on est débordés.
Bah oui.
Toutes mes dates sont bloquées l'année prochaine pour des cérémonies et j'ai encore des demandes maintenant. Donc à chaque fois je suis là, est-ce que l'une de vous édite pas cette date? Non. Bah, désolé, j'ai personne pour vous.
Ouais.
Et donc on se dit qu'on va peut-être essayer de lancer une formation parce que ça a son importance, quoi. Mais c'est un truc que j'adore faire aussi. Et là j'ai le côté théâtre qui m'aide pour ça. Et puis mine de rien aussi le côté un site, parce que le fait de rédiger des cérémonies, Ben, j'ai le côté instit qui vient me permettre de faire des jolies phrases, vérifier que l'orthographe soit nickel. Voilà, ça,
c'est... Et donc, il y a des mariages dans lesquels tu es à la fois dans l'aspect organisation et officiante.
Ouais.
Tu ce week-end, j'ai une casquette à l'autre.
Méga mariage, parce que je fais toutes les créations,
ouais.
Toute la décoration et la décoration florale,
okay.
La coordination de leur journée et la cérémonie.
Ok.
Et donc ce week-end, j'aurai toutes les casquettes.
D'accord, d'accord.
J'ai pas beaucoup de mariages, je veux dire, all-in.
Ouais.
Parce que ça a un coût et parce que c'est hyper chronophage.
Mm-hmm.
Parce que ce mariage-là, ça m'a pris, rien que ce week-end, j'ai bossé quarantaine d'heures, quoi.
Oui.
Donc, sur vendredi, samedi, j'ai bossé, ouais, 40 heures, je crois.
Et récupéré tes trucs après.
Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai désinstallé dans la foulée, donc... Entre vendredi et samedi, j'ai dormi 3 heures. Et puis, de 8 heures jusqu'à 5 heures du matin le lendemain, j'ai bossé. Donc, c'est un gros week-end.
Ouais, à fond. Est-ce qu'il y a un profil des gens qui passent par toi? Comme on disait justement, en Belgique, tout le monde ne passe pas par une personne, ou en tout cas pas pour l'ensemble. Ouais. Comment les gens viennent vers toi? C'est qui t'appelle?
Alors, le service qui est le plus pris, je veux dire, chez moi, c'est les cérémonies d'engagement.
Oui.
C'est ça que je fais le plus.
C'est la porte d'entrée, du
ouais,
coup.
Oui, c'est souvent la porte d'entrée. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'officiantes en Belgique. On doit être, je sais pas, peut-être une vingtaine. En comptant qu'il y en a qui se rajoutent, parce que des nouvelles qui se lancent, il y en a beaucoup qui arrêtent aussi.
Oui.
Parce que ici, cette année, j'ai repris 2 mariages parce que l'officiante avait disparu dans la nature.
D'accord.
Voilà, ça arrive aussi. Donc, il y en a qui commencent et qui s'arrêtent. Et puis, le Covid n'a pas aidé, évidemment, là-dedans. Mais du coup, c'est souvent une porte d'entrée. Et puis après, quand je leur explique que je fais aussi d'autres choses, ça arrive très souvent que ceux qui m'ont pris pour la cérémonie me prennent aussi pour une partie de la déco ou des créations ou la location d'éléments pour la cérémonie. Donc, des petits trucs en plus. Et puis après, j'ai aussi des gens qui viennent parce qu'ils adorent mon style au niveau de la déco.
Ouais.
Donc j'en ai qui rentrent par cette porte-là, qui font un mariage à l'église, mais qui ont flashé sur mon style de déco et qui du coup me confient la déco complète.
Et alors sur la déco justement, c'est des choses que tu fabriques ?
Il y a de tout.
Tu loues ?
Je fabrique,
ouais.
Parce que je suis hyper créative. Et donc ce week-end, j'avais fait une urne en forme de chalet parce qu'il se mariait sur le thème de Noël. Et donc j'ai ça, et puis je loue, j'ai plein de matériel que je mets en location, que j'ai accumulé au fil des mariages. J'ai parfois aussi des mariés qui, après leur mariage, me disent « Écoute, on a ça, 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 on n'a pas envie de le vendre, on sait pas quoi en faire, est-ce que tu veux bien le prendre ?»
Ouais.
Donc moi je les reprends, je les mets dans mon stock, et comme ça c'est réutilisé sur d'autres mariages. Et puis voilà, j'ai aussi toute la conception florale. Maintenant, de plus en plus, je délègue la partie fleurs parce que c'est hyper chronophage, que j'ai pas d'atelier.
Ouais.
Mon mari est désespéré parce que je fais les fleurs dans la cuisine. On a un grand espace vide et donc j'installe une grande table et je fais mes fleurs à cet endroit-là. Parce que l'atelier, il est tout le temps bloqué par plein d'autres choses parce que du coup, j'ai des créations en cours et donc voilà, je m'installe où je peux. Et du coup. Voilà, les gens me prennent en fonction de ce dont ils ont besoin.
D'accord.
C'est vraiment à la carte. Il n'y a pas d'obligation de se dire, si on va chez elle, on doit prendre ça, on doit prendre ça, on doit prendre ça. Non, c'est vrai.
Et est-ce que tu fais aussi du conseil? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour, je ne sais pas moi, clarifier leurs idées au début ou ce genre de trucs?
Ouais. J'ai des séances de coaching.
Ouais.
Ça aussi, c'est un peu ma patte. J'ai des séances que j'organise en général 2 fois par an et en présentiel, idéalement, avec des groupes, cette année, tous les bons conseils pour s'organiser, sans trop de stress, sans prendre l'organisation pour eux. Donc, je leur donne juste les bons conseils sur comment est-ce qu'on organise le mariage. Évidemment, c'est aussi une porte d'entrée parce que du coup, ça me permet de présenter mes services. Il y a des gens qui ne se rendent pas toujours compte qu'en fait, ils ont besoin d'aide sur certains points. Ou ils se rendent compte qu'ils sont un petit peu à la bourre sur certaines choses. Ah oui, c'est vrai, c'est déjà dans 6 mois, il faut commencer à regarder pour la déco, pour peaufiner les détails du planning de la journée, etc. Et donc c'est vrai que je donne tous ces bons conseils. Et même si souvent j'ai la moitié des gens qui ont participé à la séance qui sont très contents, qui organisent leur mariage de leur côté sans faire appel à mes services. Et c'est absolument pas un souci. Moi, je suis contente de me dire que j'ai peut-être pu les aider à aborder leur mariage sereinement.
Oui.
Et surtout qu'ils puissent façonner leur mariage à leur image. Mmh. C'est vraiment ça le...
De toute façon, tu ne peux pas démultiplier ton agenda à l'infini. Donc, si tu doubles ton nombre de mariés, de toute façon, tu ne peux pas, j'imagine, mettre le même niveau de qualité, d'implication.
Clairement.
Donc, si les gens ont ce dont ils ont besoin et font, comme tu dis, à leur image, c'est gagné aussi, quoi.
Ah oui, clairement.
Ouais.
Et quand je n'ai pas la possibilité de les aider et qu'ils ont besoin d'aide, je redirige vers d'autres partenaires avec lesquels je suis en collaboration.
Ouais.
Comme quand mon agenda est déjà bloqué pour une journée complète, je fais appel à d'autres pour qu'elles puissent venir les aider sur leur mariage. Ça, c'est chouette aussi dans le métier ici, c'est que j'ai quelques personnes avec lesquelles j'adore travailler et renvoyer mes clients parce que je sais que c'est des gens en qui je peux avoir... pleine et entière confiance. Ça, c'est dit aussi.
Et tiens, est-ce que tu fais le lien aussi avec les professionnels au niveau du repas?
Oui, tout à fait.
Quand
je fais la coordination de la journée, en amont, d'abord, j'ai un rendez-vous avec le couple pour vraiment visualiser le planning de leur journée, les différents prestataires qui sont déjà bookés, qu'est-ce qui est convenu avec eux.
Ouais.
Très important aussi de parfois recadrer un peu les couples en disant attention, il vous manque un point important à cet endroit-là, donc n'oubliez pas de faire les réservations. Donc, ce n'est pas la partie organisation à ce moment-là.
Ouais.
C'est juste venir faire un peu le conseil et le topo de dire, voilà, attention, là, il manque ça. Au niveau de l'horaire, on a prévu trop de temps ou pas assez de temps.
Ouais.
Ou ici, il y a un grand écart, mais on n'a pas le choix parce que la commune est tôt, l'église est tard. Et donc, il faut trouver quelque chose à ce moment-là. Donc, il y a cette partie de conseil en amont. Et puis après, une fois que le planning est entièrement booké, qu'eux ont géré la partie prestataire, horaire, etc., moi, je reprends contact avec tous les prestataires et les intervenants potentiels.
Ouais.
Savoir qu'en général, je contacte les parents et les témoins pour savoir s'ils ont prévu un discours, un PowerPoint, un flash mob ou tout ce qu'ils ont
prévu.
Des chansons et autres. Moi, je prends contact avec ces personnes-là. Parfois ils me disent oui, parfois ils me disent non, donc il n'y a pas d'obligation pour les proches de faire quelque chose, mais s'ils ont prévu quelque chose, moi je m'assure avec l'équipe que ce soit maintenu en secret et que tout soit bien préparé. Donc s'il y a un discours à préparer, le traiteur sait qu'à ce moment-là, même si le repas est terminé, il y a encore quelque chose qui va avoir lieu avant que le plat suivant ne puisse être servi. Et donc je prends contact avec tous les prestataires en amont. Je leur envoie tous un planning récapitulatif de la journée avec vraiment toutes les informations sur qui est où, à quel moment, à quelle heure, quelle adresse, quel numéro de téléphone, etc. Comme ça, ils ont tout. Donc, s'il y a le moindre couac, ils savent qui joindre pour quelle raison.
Ouais.
Et le jour J, je fais le chef d'orchestre.
Ouais.
Je marche sur les pieds de personne. C'est une grosse crainte très souvent des traiteurs ou des salles que je vienne imposer... maintenant il y a ça, mais mon gâteau il est là, il est sorti du frigo, faut que je vienne le servir. Vous le gardez,
débrouille-toi.
Il y a un truc à faire, non, c'est pas du tout ça. Ah, le gâteau est servi, ok, l'intervention devait commencer maintenant, ils ont pris un peu de retard, tant pis, on la redécale, parce qu'il y a des priorités. Donc quand il y a des moments importants à respecter, comme un plat qui est chaud et qui doit être servi là maintenant tout de suite, on switch un peu l'horaire. Pareil quand il y a un retard, ça m'est déjà arrivé d'avoir des participants, enfin des invités qui, entre deux endroits différents, ont pris du retard parce qu'ils se sont perdus, parce qu'il y a eu un couac avec une voiture ou autre, que du coup, je m'organise avec le traiteur pour commencer un peu plus tôt le vin d'honneur et le raccourcir un petit peu parce qu'on va devoir caler la cérémonie à ce moment-là, etc. Donc ça, c'est vraiment les ajustements en direct au niveau de la journée. C'est pas le plus simple à gérer parce que c'est des moments assez stressants, mais ça arrive à chaque fois qu'il y a un petit couac quelque part.
Ouais.
Et que peut-être que ça se serait très bien passé si j'avais pas été là, parce qu'ils se seraient organisés entre eux, peut-être aussi que c'est la catastrophe. Et j'ai déjà eu le cas avec des mariés qui hésitaient à prendre le service de coordination, qui finalement n'avaient pris que la décoration, qui en fait ont eu un énorme retard sur le planning, parce qu'il y avait un souci au niveau d'un camion qui gênait, etc. Et le lendemain du mariage, ils m'ont dit franchement, gros regret quoi. On a hésité longtemps et on aurait dû, parce qu'en fait on a tellement couru dans tous les sens et pris plein de retard, qu'au final on n'a pas profité comme on aurait voulu profiter.
Ça passe vite la journée de mariage.
Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que les mariés avec lesquels... je coordonne la journée, jamais ils sont stresser ou le lendemain se dire mince, on a loupé plein de choses, parce que je veille à ce que les mariés profitent.
Ouais.
Et je viens d'ailleurs régulièrement les voir pour m'assurer que tout ce que se passe bien, tout est sous contrôle, qu'ils profitent à fond. Et voilà, et je gère vraiment tous les petits couacs qui arrivent en coulisses, et il y en a systématiquement.
Ouais.
Le planning a beau être millimétré, c'est un peu comme à la télé, c'est les aléas directs.
Ouais. Ouais.
Il y a toujours un moment, un petit quelque chose, quelque part, aussi minime soit-il, qu'il faut gérer, même au niveau des conditions météo,
oui.
Parfois. Un petit truc à gérer en dernière minute, parce que y a un truc dehors qui était prévu, pas chance, il vient se mettre à dracher. Donc on réorganise discrètement en coulisses.
Ouais.
Et voilà, parfois on réorganise... entre prestataires sans que les mariés soient au courant, et puis les mariés sont là, il ne devait pas se passer un truc maintenant parce que c'était la pièce montée, etc. Non, tracasse, ouais, hein. on s'occupe, on gère, profite. Et donc voilà, c'est les mariés qui sont un peu contre le freak, ça leur fait du bien,
ouais,
parce qu'au moins
peuvent s'appuyer sur vous,
ils profitent, quoi, ouais. C'est vraiment du bonheur. Et c'est vrai que j'ai eu quelquefois le coup de traiteurs cet été qui m'ont dit c'est vraiment chouette la collaboration qu'on a eue.
Oui.
Parce qu'on a déjà aussi parfois eu des...
Parce qu'eux, du coup, ils
ont imposé.
Oui.
Ou qu'eux devaient gérer des choses pour lesquelles ils n'avaient absolument pas d'idée. Ou de, voilà, le cousin germain qui vient avec sa clé USB. Bonjour, je viens passer 25 minutes de film.
Ouais.
J'ai pas l'accès à la technique, il n'y a pas le projecteur qui est prévu. Enfin voilà, c'est des petits trucs qui arrivent aussi parfois. Et où le traiteur, c'est... pas son job de gérer ça,
non.
Le photographe c'est pas son job non plus, le DJ il est pas au courant qu'il y a quoi que ce soit qui va se passer, et donc moi je viens quelque part faire cette jonction
entre tout le monde.
Le chef d'orchestre en fait. Le chef d'orchestre c'est pas d'office nécessaire, mais par contre il apporte, je veux dire, une qualité et un déstress en plus pour tout le monde, donc c'est que du bonus quoi.
Et du coup, si tu me dis 45 mariages, c'est ça, sur l'année, plus d'autres événements, donc j'imagine que tes week-ends sont presque tous occupés par ton boulot. Est-ce que tu inverses et tu récupères dans la semaine? Comment ton planning à toi, à quoi ça ressemble?
Alors le planning, il est compliqué. J'ai souvent des mariés qui sont là, ah oui, mais ça va, maintenant c'est la semaine, t'es tranquille. Non, je ne suis pas tranquille la semaine parce que je prépare la semaine. En fait, mon planning il s'organise en deux temps, la haute saison et la basse saison.
Ouais.
La haute saison où je bosse 7 jours sur 7, sauf en général 2 semaines en été, que je prends volontairement pour souffler. Et il y a aussi parfois des semaines où le week-end je n'ai qu'un événement, qu'un mariage, parfois juste une cérémonie. Et donc, quelque part, c'est juste une après-midi. Pendant laquelle je travaille, mais ça ne veut pas dire que je ne bosse pas la semaine puisque j'ai à chaque fois les mariages suivants à préparer aussi. Cette année-ci, elle a été très particulière parce que tout s'organisait au jour le jour, en fonction des codes, des nouvelles mesures. Et donc c'est vrai que quand la saison a été lancée, on était à bon, ok, le mariage qui a lieu dans 3 semaines, on a la confirmation, il peut avoir lieu. Donc, on y va, et donc on se lance dans la réorganisation quelque part de ce mariage-là, en dernière minute, ça va devoir tout gérer. Puis du coup, on a l'info suivante, celui de la semaine d'après peut avoir lieu aussi, ok, donc en même temps, il faut faire celui-là. Et puis la semaine d'après, et donc en fait, depuis mai, j'étais à flux tendu, avec des mariages tous les week-ends à peu près.
Ouais.
Alors que d'habitude, j'ai... 6 mois, un an, puisque j'ai la basse saison pour mettre en place tout ce qui peut être mis en place en basse saison. Donc faire le rendez-vous client, parce que c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps, rédiger les cérémonies, préparer les dossiers de décoration, préparer le planning des jours J.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est vrai que l'exception cette année, c'était de se dire que c'était un flux tendu.
Et les gens, du coup, idéalement, viennent te voir quoi? Un an et demi avant?
Alors très souvent, c'est un an.
Oui.
Maintenant c'est un an et demi à cause du Covid, et puis j'ai aussi souvent des gens qui se rendent pas compte qu'il faut booker ça longtemps d'avance, ou qui se fiancent à Noël et qui se disent bon ben on se marie cet été, soyons fous, et qui du coup me bloquent à peu près 6 mois à l'avance.
Ouais.
Moins de 6 mois c'est compliqué. Avant je pouvais me permettre de bloquer des gens un mois, deux mois avant. Maintenant, c'est très compliqué.
Et quand tu parles des autres événements, en proportion, j'imagine que les mariages, c'est la grosse...
Ouais, non, pas...
D'accord. Et les autres événements, c'est des baby showers, ouais. Des baby reveals.
Donc j'ai baby shower, gender reveal party.
Ouais.
Donc ça se fait vers les 4 mois de grossesse quand on a le sexe du bébé, pour l'annoncer à tout le monde en fait.
D'accord.
Sous plein de manières différentes, on expose un ballon, on coupe un gâteau avec l'intérieur du gâteau qui est rose ou bleu, c'est souvent les couleurs un peu clichés, mais voilà, c'est ça ouais. qui permet de comprendre facilement, parce que si on voit du jaune ou du orange, c'est un peu plus compliqué. Et les anniversaires pour enfants aussi.
D'accord.
Donc l'animation, la déco, voilà, avec mon métier d'institut, je propose de l'animation pour les enfants. Et c'est un peu le petit bonus, parce que c'est des fêtes que j'adore faire, qu'on fait de plus en plus, mais pas non plus comme un mariage.
Oui.
Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça eux-mêmes, parce que c'est une beaucoup plus petite fête. Donc voilà, il y a peu proportionnellement par rapport au mariage, où là, il y a quand même beaucoup de gens qui font appel à des professionnels. Il y a de moins en moins de petits mariages où les gens disent « Ok, on va juste à la commune, on fait des pains surprises et ça, c'est notre mariage.
Ouais. »
Il y en a, mais de moins en moins, comparativement aux gens qui vous louent une salle, font venir un traiteur, font une décoration, etc. Et c'est vrai qu'au niveau des baby showers et des anniversaires, c'est des fêtes pour lesquelles on se permet de faire ça soi-même.
Ouais.
Parce que c'est moins de choses à gérer, c'est moins de choses à préparer. Ici, le petit plus que j'apporte, c'est que tout le monde profite de la fête.
Mm-hmm.
Parce que c'est vrai que souvent, ouais. c'est la marraine du futur bébé qui organise la baby shower ou autre. Et du coup, cette personne-là ne profite pas vraiment de la fête, puisque c'est elle qui doit gérer autant la partie animation que la partie décoration. Du coup, moi, je viens soulager cette personne-là en apportant souvent une décoration ou une animation qui est, je veux dire, un peu plus préparée, qualitative, testée et approuvée aussi. Parce que voilà, avec l'expérience, il y a certaines choses que je peux conseiller de faire ou pas, parce que ça, je sais que ça marche bien, ça marche un peu moins bien.
Mm-hmm.
Là, si vous avez plein de tranches d'âge différentes, ça va être chouette à faire. Là, attention, parce que les personnes les plus âgées qui seront présentes, oncles, tantes, grands-parents, ils vont juste pas comprendre ce qui se passe, parce que c'est une activité qui se fait plutôt pour des groupes très très jeunes, donc ça permet aussi d'avoir les bons conseils. Et c'est vrai que ces fêtes-là sont des fêtes un peu petit bonheur pour moi aussi. C'est des petits trucs que j'aime bien faire, qui me prennent pas mal de plaisir, et aussi, mine de rien, qui me permettent d'avoir des événements et de garder le rythme événement pendant la basse saison, où là j'ai très peu de mariages de novembre à mars. En général, j'ai 3 ou 4 mariages maximum sur cette période-là.
Et donc, ça me dit aussi
ce petit plus, quoi.
Ça doit être chouette pour des gens qui ont été contents que tu les accompagnes dans leur mariage,
ouais.
de pouvoir faire appel à toi, parce qu'a priori, si tout va bien, ils ne se remarient plus.
Mais je fidélise rarement mes clients au niveau du mariage.
Pour ne pas te rappeler pour le suivant. mais en tout cas, si pour une baby shower ou voilà, il y a l'occasion de quelque part, te retrouver aussi, quoi.
Ouais. Je l'ai fait ici cette année où j'ai fait un mariage en juin et j'ai fait ici en novembre la baby shower à la future maman qui était enceinte au moment du mariage.
Okay.
Et donc j'ai eu le plaisir de faire sa baby shower ici et je sais très bien que j'ai ce petit couple avec qui j'ai un peu plus qu'une relation client ont envie de faire appel à moi pour d'autres événements.
Mmh.
J'ai déjà refait donc, des baby showers pour des couples de mariés, mais aussi des créations personnalisées. Ici, j'ai une commande d'un coffre à jouets, parce que c'est aussi des créations que je propose pour un des couples que j'ai marié il y a un an. Ils ont eu un bébé entre-temps, il y a 2 ans déjà. Ils ont eu un bébé entre-temps et donc ils m'ont commandé un coffre.
Chouette.
On est resté en contact aussi pour ces petites choses-là, quoi.
Et ça, c'est via ton webshop aussi ?
Oui, c'est ça. Donc, encore une casquette qu'on peut rajouter.
Quand même, hein ?
Oui, je suis légèrement hyperactive. De plus en plus, je m'entoure de partenaires.
Ouais.
Donc ici, j'ai une partenaire avec qui j'ai une très chouette relation qui vient avec moi sur les baby showers pour faire des montages ballons, notamment.
D'accord.
Qui m'aide pour l'installation de décorations, etc. J'aime bien aussi faire appel à des stagiaires qui viennent pour découvrir le métier et donc par la même occasion donner un gros coup de main. Et c'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir de plus en plus de personnes qui m'accompagnent. Parce que, voilà, j'aimerais bien rattraper les 3 ans de sommeil à récupérer. Mais voilà, c'est vrai que vu que j'aime faire beaucoup de choses différentes et que j'ai envie de garder ce truc de proposer plein de choses différentes, j'aime pas l'idée de ne proposer que la décoration ou que les mariages, parce que pour moi, tout fait partie du même fil conducteur et de la même envie de ma part de faire des choses. Donc j'ai pas envie de limiter ça, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses pour lesquelles j'ai besoin de renfort pour pouvoir continuer à le proposer comme ça.
Et alors, comment est-ce qu'on te paye? C'est quoi le comment est-ce que les gens peuvent savoir ce que ça va leur coûter?
Alors moi, en toute transparence, la plupart de mes tarifs sont sur mon site internet.
D'accord.
C'est un choix que j'ai fait dès le début, même si c'est pas toujours ce qu'on me conseillait de faire.
Oui.
Parce que dans le métier, il y a très peu de personnes qui présentent leurs tarifs. Pour déjà une raison, c'est que quand on voit un prix, on comprend pas toujours ce que ça représente. Oui. Voilà, ce prix, il est trop peu cher ou trop cher. Qu'est-ce que ça comprend? Pourquoi est-ce que c'est ce tarif-là? Et donc, ils prennent le temps de prendre contact avec moi. Et justement, d'avoir plus d'informations. Et c'est quelque chose qui est pour moi important, c'est d'avoir un contact, et surtout un contact téléphonique, pas juste un échange de mail.
Ouais.
Principalement avec les couples de futurs mariés, parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est que le feeling passe.
Ouais.
Que les gens puissent sentir que ça va bien se passer, que je puisse les mettre en confiance rien qu'avec la discussion que je vais avoir avec eux. Parce que tout au long de l'organisation du mariage, je veux qu'il y ait ce lien qui soit là, qui sache qu'est-ce qui est compris, comment est-ce que ça fonctionne. Et donc, au niveau des tarifs, je pense que la seule chose qui est pas sur mon site internet, c'est la décoration.
Ouais.
Parce que là, il y a tellement de facteurs différents. On me demande souvent combien ça coûte une déco de mariage, j'ai envie de dire, entre 100 € et 250 000 euros. Ouais, la grosse louche. Ouais. C'est très, très variable. Et ça dépend du budget, des envies, du nombre de tables, de la salle. Parce que voilà, il y a des salles qui sont très 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 grandes, mais si on les occupe pas entièrement, il faut habiller l'espace. Ou s'il y a énormément de place, mais qu'il y a énormément de tables aussi, ben on va se concentrer que sur la décoration de table, mais il va falloir multiplier le nombre de tables. Donc voilà, il y a tellement de facteurs que ça c'est d'office avec un rendez-vous. Et ce que je propose maintenant, c'est un rendez-vous de scénographie, on visite la salle ensemble. On fait le tour, on regarde les envies des mariés, comment ils imaginent l'espace, où est-ce qu'ils font le vin d'honneur, où est-ce qu'ils font le repas, où est-ce qu'ils font la soirée dansante, est-ce qu'il y a des choses qui vont devoir se déplacer à un moment donné ou à un autre, parce que ça peut aussi arriver qu'on doit libérer l'espace pour faire une piste de danse. Alors je leur propose un plan avec un devis hyper précis, là on ferait ça, là on ferait ça, là on ferait ça, toujours avec des possibilités, donc il n'y a pas de package tout fait, genre vous devez me prendre à 100% ou vous ne me prenez pas. C'est vraiment s'ils ont juste envie de louer les éléments de déco et faire les fleurs eux-mêmes, il n'y a aucun souci avec ça. De par mon expérience, j'ai des bons conseils à donner. Et parfois, je recadre un peu les couples qui ont des envies...
Des colombes.
Oui, c'est ça, mais des envies parfois qui ne sont pas concrétisables dans la salle. Allez, j'ai parfois des envies de grands drapés qui viennent se mettre au plafond. Sauf qu'il faut un élévateur, ça coûte très cher. Et que souvent... il ne peut pas y avoir de marche quelconque pour que l'élévateur puisse venir se mettre. S'il y a des marches, c'est mort. Si la porte fait 1 mètre de large, c'est mort. Donc c'est plein de choses comme ça que les gens n'ont pas toujours en tête. Alors j'ai pas toujours tout en tête, mais j'ai quand même plein de conseils pratiques. Et très souvent, à la fin de ce rendez-vous-là, j'ai quand même des... Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça. Mais c'est pour ça que je suis là.
Parfait, parfait.
C'est pour ces conseils.
Qu'est-ce que tu dirais que tu as comme projet? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part plein de mariés, évidemment, mais comment t'as envie que ça évolue, cette aventure?
Alors, l'objectif à court terme, survivre à 2022.
Ah, attends, à court terme, c'est survivre l'année prochaine, d'accord.
Ouais, à court terme, ça va être de m'entourer de personnes pour travailler avec moi.
Ouais.
Ça, c'est vraiment l'objectif... planifié en janvier, de pouvoir engager ou en tout cas avoir des collaborateurs. Et à très très long terme, c'est d'avoir une équipe, vraiment une équipe. Une équipe avec des personnes à qui je pourrais sous-traiter vraiment des services. Donc ne plus moi prendre en charge l'office et les cérémonies, mais de pouvoir proposer plusieurs personnes qui travailleraient sur base d'une formation que pourquoi pas je donnerais avec plusieurs partenaires. C'est voilà, lancer des formations pour justement devenir décoratrice, devenir officiante de cérémonie. Voilà, c'est un projet à très très long terme parce que ça va prendre du temps avant de pouvoir se mettre en place. Mais c'est vraiment l'idée de se dire, ben voilà, on va former des gens avec les compétences que nous on a acquises qui vont du coup pouvoir travailler en collaboration avec nous.
Et il n'y avait pas un projet de lieu aussi?
Oui.
Il semble bien.
Ça aussi. Alors l'idée à terme, et là c'est aussi un projet de couple parce qu'on ferait ça avec mon mari, ce serait d'acheter un lieu avec beaucoup de cachets, parce qu'on adore les lieux plutôt anciens, de le retaper à notre image avec la possibilité qu'il y ait dedans la partie événementielle. Au sens très large, hein, pas uniquement les mariages, pouvoir faire aussi des événements corporate ou tout autre type d'événement, pourquoi pas même des baby showers, d'avoir des messages un peu plus petites que celles qu'on imagine.
Oui, c'est ça, ou des réunions de famille.
Voilà, c'est ça, pour avoir des réunions de famille, des anniversaires, et aussi de pouvoir la semaine avoir la partie accueil pour la nuit, donc d'avoir plutôt gîte ou chambre d'hôte, hein, voilà, ce côté accueil de personnes qui pourraient venir un peu partout. Et évidemment, de par le boulot d'un site de base, proposer un accueil extrascolaire.
Ok.
Donc voilà, on avait ce projet-là l'année passée avec un très beau château sur lequel on avait flashé. Il y avait beaucoup, beaucoup de travaux.
Ouais.
Et l'idée, c'était effectivement de faire des journées un peu thème, alors je veux dire médiéval, mais pas uniquement, parce que le château se prêtait au côté médiéval, mais d'avoir un accueil extrascolaire pour la semaine, pour faire venir des classes, des écoles. Et puis le week-end, la partie événementielle.
D'accord.
Là, c'est un très gros projet de vie qui, voilà, il se concrétisera peut-être qu'à la quarantaine ou à la cinquantaine, on verra. Mais ça reste là, clairement. Voilà, c'est à long terme, mais clairement, l'objectif, c'est que Your Big Day grandisse et puisse vraiment devenir une référence dans l'événement privé.
Super.
En restant événement privé. Parce que même si je propose un peu de corporate,
c'est pas le cœur.
C'est pas le cœur du métier.
Ouais,
donc, moi, je veux rester sur la partie mariage et jolis jours, en fait. Hein. Je reste sur les jolis jours.
Super. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une version de toi il y a 5 ans?
Vas-y, fonce. y a déjà ce côté vas-y, fonce. Même si il faut pas foncer tête baissée non plus.
Ouais.
Si j'avais pas fait les formations avec CreaJob, j'aurais peut-être échoué dès la première année en ayant zéro client et que ça n'ait pas pris, que ça n'ait pas marché. Maintenant, c'est vrai que il faut tester. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être mis en place encore plus que maintenant, parce que je pense que les systèmes comme les couveuses d'entreprise et les formations pour jeunes entrepreneurs ne sont pas encore assez accessible à tout le monde, tout le monde ne connaît pas. Maintenant, c'est vrai que y a plein de choses qui peuvent aider les jeunes qui ont envie de se lancer. Enfin, les jeunes, je dis les jeunes, mais jeunes entrepreneurs, peu importe l'âge auquel on a envie de se lancer. Surtout, c'est bien aller prendre contact avec les personnes qui font ce métier-là, c'est important.
Ouais.
Et j'ai chaque année des personnes qui sont intéressées, avec qui je discute avec grand plaisir, parce que je pense que c'est important d'avoir un peu l'info sur les coulisses du métier.
Oui.
Un métier n'est pas l'autre. Et il y a plein de choses que j'aurais voulu qu'on me dise avant de me lancer. Que la comptabilité, ça allait prendre énormément de temps.
Ouais.
Même si on s'en rend pas toujours compte. Que,
J'imagine qu'entre tes locations, enfin tes différentes sources de revenus, en fait.
Il y a beaucoup de choses différentes qui rentrent en ligne de compte. Ne pas sous-estimer le plan financier qui a son importance. C'est vrai que quand j'étais chez CreaJob, c'est toujours quelque chose qui me faisait peur parce que comment est-ce qu'on définit combien d'argent on va rentrer chaque mois, chaque semaine? C'est pratiquement impossible. Et même à l'heure actuelle, c'est presque impossible. Mais par contre, ce qui est important, c'est de réussir à avoir des objectifs.
Ouais.
De se dire combien est-ce qu'il va falloir que je gagne par mois, semaine, année pour pouvoir me payer. C'est un truc qui est toujours très difficile, même maintenant, c'est d'avoir cet objectif quand même financier, parce que l'idée quand on se lance comme entrepreneur, c'est quand même de vivre de son activité.
Ouais.
Même si j'adore ce que je fais.
C'est pas du bénévolat.
C'est pas du bénévolat. Donc il faut aussi prendre aussi confiance, et ça arrive au fur et à mesure du petit chemin qu'on fait et qu'on façonne. c'est de prendre confiance en ses capacités, en ses qualités, oser se mettre en avant, parce que c'est quelque chose que on en discute souvent d'ailleurs chez les mômes, hein, d'oser parler de soi, se dire qu'on fait les choses bien, etc. Parler de soi et se vendre, en fait. C'est aussi ça qui parfois est compliqué. Mm-hmm. Et je pense que c'est un truc qu'il faut oser le faire.
Ouais.
Il faut oser faire ce pas-là.
Bah en tout cas, tu le fais bien, j'avais l'impression.
J'adore.
On sent ce plaisir et les 1800 idées qui passent en même temps dans ta tête. Et
diffusées dans tous les sens.
C'est très sympa. Moi, on se connaissait sans se connaître et j'avais pas creusé. Je me suis dit, je vais pas voir ton site et tout parce que comme ça, je découvre tout et en tout cas, je suis ravie. Merci vraiment de cette générosité. Je te demanderai toutes les façons possibles et imaginables de te contacter. Mm-hmm. Comme ça, je mets tous les liens pour que les gens qui s'intéressent au métier puissent venir vers toi, que les gens qui sont vraiment curieux et qui peut-être se marieront en 2023 plutôt. Ouais.
J'ai pas encore ouvert l'agenda 2024. Je me laisse encore un petit peu en attente.
Voilà. Et que même en attendant les mariages, il y a plein de jolis jours que tu puisses accompagner.
Il y a encore de la place dans le planning pour des baby showers, des anniversaires, des gender reveal parties, des baptêmes, des communions, tout ce qu'on a envie de célébrer.
Chouette. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Vous l'avez senti souffler, ce vent de passion, d'énergie, cette créativité. J'ai trouvé extraordinaire qu'Alison ait pu, suite à l'organisation de son propre mariage, se dire « voilà ma voix, c'est pour moi, c'est ce que je vais faire », sans pour autant avoir besoin de certification, d'attestation, de diplôme, mais en se renseignant, en s'entourant, en construisant pas à pas. Aujourd'hui, son projet est déjà bien vigoureux malgré les bourrasques de la crise sanitaire que le secteur événementiel a traversé. Et on sent qu'il y a plein d'idées, plein de projets qu'on entendra parler de cette créatrice de jolis jours très longtemps, que son projet va évoluer, qu'elle ne s'ennuiera pas une seconde. Peut-être que dans la saison 3, 4 ou 5 de ces podcasts, on retrouvera Alison. En tout cas, n'hésitez pas à la retrouver sur tous ses réseaux, vous avez les liens en commentaire. Merci et à bientôt pour d'autres aventures dans l'espace de récréation.